Aux ordres du cœur de Fabrice Colin, jour 2. Holland Park, le sanctuaire ignoré des touristes. À l'ouest de Kensington Gardens, un délicieux fouillis de mares, de sanciers, de prairies. La dernière fois que je suis entrée en ce lieu, c'était avec mon père, justement. Il venait de demander le divorce. Scolairement, je vasouillais. Il avait, pensait-il, besoin de se faire pardonner. Maman regarde autour d'elle, s'avance sur l'allée, désigne un banc. John m'a embrassé ici.
Oh !
Tous nos rendez-vous, nous nous les donnons dans ce parc. Le gardien est au courant. Henri, il raconte des fadaises aux journalistes, les envoie au diable Vauvert. Il est si drôle. Ce soir, elle sourit avec gourmandise, ce soir il faudra que je revienne seule. Henri ouvrira exprès pour nous. J'en suis sûre, maman. Règle numéro 2. La contradiction est inutile. Règle numéro 3. Écouter l'experte, la malade, et apprendre d'elle. Au bout du chemin, une prairie se dévoile. Menée par une grand-mère chinoise, des locaux épousent l'air à grands gestes ralentis.
« Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?»«
Un cours de tai chi. »
De quoi ?
Par bond léger, un écureuil s'aventure au pied du grillage. Maman sursaute affolée.
Relax, soufflai-je. Il vient juste nous dire bonjour.
Elle me serre le bras et recule, surveillant le rongeur. Dans l'un des vieux albums qu'a numérisé mon père, il existe une photo d'elle, accroupie au bord d'une pelouse, tendant un morceau de muffin à un petit animal en tout point semblable à celui-ci.
De quand date-t-elle ?
1985, 1986 ? Maman avait 21 ans ou 22. Elle et John Solomos Garner s'étaient rencontrés à Cannes en 1983 lors du festival. L'année où les Monty Python ont gagné le grand prix spécial du jury avec le sens de la vie. Maman m'a raconté 100 fois comment elle s'était pris une cuite au bar avec John Cleese et sa troupe. Désormais, des pans entiers de l'édifice se sont effondrés. Les souvenirs sont des photos enfouies, couvertes de poussière. Il faut tout rebâtir. Maman croit que John, le sien, est encore en vie. Maman croit que Wilfried, son fils, est encore en vie. Maman croit qu'elle va bientôt tourner dans Les Grandes Espérances, son premier film majeur sorti en 1987.
« Je voudrais rentrer, » murmure-t-elle.
Mon ventre se noue, elle lève les yeux au ciel, se mord l'intérieur des joues. Il va pleuvoir. Le ciel est une mer d'azur, pas la queue d'un nuage.
D'accord, nous rentrons donc.
Elle monte se coucher sans un mot. Je reste au salon, seule, perdue, à tripoter mon portable, à jouer 2-3 trucs au piano en sourdine. Sapienza rentre sur les coups de 17h.
Alors ?
Je rabats le couvercle. Tout va bien, dis-je. Elle pose une main sur mon épaule. Pas de mensonge entre nous. Je lève les yeux vers elle, m'essuie le coin des paupières. Des fois, c'est compliqué. Je sais. J'ai peur de mal faire. Tous les parents ont peur de mal faire. Elle tourne les talons, laissant sa phrase flotter dans le soir naissant. Elle a raison, hélas. Je suis devenue la mère de ma mère. Nous avons décidé d'aller au restaurant. Maman veut manger indien. Elle se souvient d'une adresse formidable à Leicester Square. Nous perdons une demi-heure à la chercher. Elle s'énerve. « Mais si, ce serveur si gentil, là, Navine, oui, voilà. » Et elle est toute heureuse d'avoir retrouvé son nom. « Ton père lui offre 10 livres de pourboire à chaque fois, alors tu penses ?» Je la laisse pérorer. « Ton père. » J'imagine qu'elle parle de John. Tout à l'heure, devant le musée d'histoire naturelle, j'ai eu un flash.
le muséum de la mémoire de ma mère saccagé par une charge d'éléphants, des salles en flammes. Ce n'est plus mon Londres. Nous errons sur la place, passons, repassons. Bras ramenés contre sa poitrine, ma mère tourne sur elle-même. Je lui caresse l'épaule. Il a peut-être été déplacé.
Qui ? Navine ?
Non, le restaurant. Elle pointe le doigt sur un bâtiment noir. Il se trouvait ici, je ne suis quand même pas timbrée. Ses yeux brillent d'un éclat mauvais. Je lui attrape le bras. On va en trouver un autre. Elle se laisse emmener, déboussolée.
Pourquoi faut-il qu'il change tout, tout le temps ?
S'agace-t-elle, tandis que nous longeons le cinéma. On demandera au maire.
J'aimerais voir Anna et ses sœurs. Ils le jouent encore, tu crois ?
Discrètement, je sors mon portable et tape le titre dans Google. Un film de Woody Allen sorti en 1986. Pas sûr, dis-je. Finalement, nous dénichons un restaurant indien gentillet sur Charing Cross Road. Maman est à la fois soulagée et décontenancée. Ce n'est pas son endroit. Ce n'est certainement pas son serveur. Elle plisse le front. Chaque nuit, un monstre aux longues griffes, grises et molles, s'introduit dans la forteresse de son esprit et repart avec on ne sait quoi sous le bras. Bientôt, la forteresse sera vide. Que restera-t-il alors de ma mère ? Je reviens à elle. Elle parle de Wilfried, son fils. « Ton frère, » précise-t-elle, comme si c'était moi qui souffrais de troubles de la mémoire. Mon frère qui, dans son esprit, a probablement 3 ans. Je défais mes cheveux. Wilfried et son skate éternel. Wilfried et ses lunettes punk. Mort le jour de mes 14 ans. J'habitais chez mon père. Maman a appelé au beau milieu de la nuit, c'est moi qui ai décroché. Elle hurlait telle une louve prise au piège. J'ai mis un temps fou à comprendre ce qu'elle racontait. Apparemment, une tour de spot s'était effondrée sur une scène à Atlanta. Wilfried avait été blessé. Il est dans le coma, c'est grave. Par la suite, nous avons appris que mon demi-frère avait été tué sur le coup. Souvent, les autorités annoncent des mauvaises nouvelles en 2 temps. 1. C'est sérieux, madame. 2. Vous êtes assise ? Votre fils est décédé. Wilfried allait fêter son 25e anniversaire, à 2 semaines du mien donc. Il n'y a plus eu de fête après ça. Plus de gâteaux ou de serpentins. Le sourire de maman s'est figé, pris dans les glaces du désespoir. Ses premiers problèmes sont apparus quelques semaines plus tard.
Ça ne t'intéresse pas ce que je te raconte ?
Elle porte une pakora aubergine à sa bouche, le grignote comme un oiseau.
Si, si, maman, tu parlais de Peter Pan.
Ils ont évoqué Ben Kingsley pour le rôle du capitaine Crochet, mais bon, les journaux. Je lui tapote la main. Ce serait chouette. Tu le connais bien, Ben. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux insinuer ?
Rien, je...
Elle retire sa main comme si elle s'était brûlée.
Je ne flirte jamais sur les plateaux de tournage, jamais.
Tu peux demander à John. Sans compter que Ben a...
Quoi ?
La quarantaine ?
Il pourrait presque être mon père.
Non mais tu m'imagines ? J'essaye justement. Une jeune fille brune, élancée, plus fine qu'un roseau. De grands yeux de biche effarés, ouverts sur une question perpétuelle.
Quoi ?
Moi, une star de cinéma ? Je ferme les paupières, me projette un an en avant. Tu es seule, maman, dans la chambre de ta maison médicalisée. Des trophées sont alignés sur la commode. Un César du meilleur second rôle, un BAFTA de la meilleure actrice, tout un tas de babioles clinquantes glanées au long de tes 30 années de carrière. Si on te les montre, tu ne sais plus. Si on te parle des films dans lesquels tu as joué, ton regard reste vide. La nuit dévore mes rêves. ne m'en laisse que des lambeaux. Je me redresse en sursaut, cœur battant, vibrant de ton absence. Quelque chose veut m'arracher à toi, maman. J'empoigne mon réveil, 3 heures. Je sors, rejoins ta chambre, ouvre ta porte, prends une longue inspiration. Ton lit est vide, les draps sont défaits. C'est le cri d'une chouette qui m'a réveillée. Y a-t-il encore des chouettes à Londres? Je descends à pas feutrés. Un chat vient se frotter à mes jambes. Salut, toi. Comment se fait-il que je t'ai pas encore vue? La maison dort. Sa respiration est lourde. Tout est pesant. Une menace rôde. Dans le réfrigérateur, une bouteille de jus d'orange m'attend. Verre froid, à buée, lentement, je reprends mes esprits. Enfin, je me tourne vers la baie vitrée. Le spectre de ma mère est debout dans le jardin. Une dame blanche qui s'avance sur l'herbe. Une pluie douce zèbre la vitre. J'enfile mes chaussures et vais à sa rencontre. Salut, maman. Une autre règle non écrite celle-ci. La peur n'a pas sa place. La mienne, en tout cas. Rien de ce qu'elle peut faire n'est censé m'inquiéter. Tout ira bien. Tout ira bien pour toujours. Maman pirouette. Elle a la tête d'une petite fille qui s'attend à se faire disputer, ou celle d'une vieille femme perdue dans les limbes. Il est parti, n'est-ce pas? Qui ça? John. La réponse officieuse est « Oui, maman. Il est parti il y a plus de 20 ans. Il est mort noyé dans la mer des Cyclades. On a retrouvé son masque et son tuba 2 jours plus tard sur une plage de Naxos. Les palmes étaient restées à ses pieds. » Infarctus massif, a conclu le coroner. Il ne doit pas être loin. Il m'a quitté. Elle porte 2 doigts à sa bouche, 2 doigts tremblants. Elle n'a pas l'air d'y croire. Mais qu'est-ce qu'elle ne croit pas, au juste? Que son mari est parti? Que son mari n'est plus son mari? Que son mari est mort? Qu'elle a 56 ans et qu'elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle fabrique ici, dans ce jardin de Londres au cœur noir de la nuit? Oh, la béance! Oh, la terreur de ne plus être qui on a été! Franchement, ça m'étonnerait, Joanne. Il est très rare à présent qu'elle m'appelle par mon prénom. Joanne. Je sais ce que ça signifie. Elle est lucide. Elle comprend ce qui est en train de se passer. Confusément, sans doute. Mais le brouillard qui l'entoure n'est pas assez épais pour empêcher la peur de l'atteindre. Le brouillard et la peur. Tu ne veux pas rentrer, dis-je. On pourrait se faire du thé. Joanne. Joanne. Pourquoi est-ce que tu me mens? Oh, oh. Elle avance dans le passé. Comme si elle remontait le fil. Jusqu'où? Je ne te mens pas. Tu m'as juré qu'il n'y avait rien entre John et Sapienza. Mais il n'y a rien. John est parti. Il va revenir. Elle me serre le poignet. Sapienza est partie aussi. Tu ne trouves pas ça anormal? Non. Comment non? Sapienza n'est pas partie. Elle est ici, dans la maison. Je pointe le doigt vers la fenêtre du 2e étage. La lumière est allumée. Ce n'est pas sa chambre, ça. Si. Ma mère se tourne vers moi, sourcils foncés. Es-tu avec moi ou contre moi? Je suis ta fille, maman. Je suis toujours avec toi. Je t'aime. Elle secoue la tête ébranlée. Dieu sait quel effet produisent ces mots sur son esprit. Dieu sait si elle parvient à leur donner un sens. Ma fille, répète-t-elle en levant les yeux vers la fenêtre. Maman, allez, tu vas prendre froid. On devrait monter se recoucher. Elle hausse les épaules, se laisse reconduire de mauvaise grâce, marmonnant. J'ai envie d'arracher des touffes d'herbe et de m'en tartiner le visage. Merde, dans quoi l'ai-je embarqué? Le jardin est gorgé d'ombre, de pluie, de tristesse. Tu le savais, Joanne, tu le savais que ce serait trop dur pour toi. N'est-ce pas justement pour cela que tu l'as fait?